BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommeret.
Nous, c'est la bourse, bienvenue à tous, jusqu'à 18h, BFM Bourse, au seul rythme des pulsations boursières. Antoine, votre... Il est là, en fil rouge, bien sûr, Antoine.
Oui,
votre mot du jour.
Ce coup de mou hein, sur les actions européennes, alors qu'on avait plutôt bien commencé la journée, mais là, moins 0,36% pour le CAC 40, bah, qui s'approchait de la centaine de points. C'est part de ses derniers records absolus. On a une tech qui surperforme légèrement, qui ne perd que 0,08% si on regarde l'Euronext Tech Leaders. Du côté de l'Eurostock 50, on perd 0,29%. Wall Street, très partagé. On est en forme sur la tech, hein, plus 1,17% pour le Nasdaq. Mais le Dow Jones, lui, est un petit peu en retrait, moins 0,05%.
On va rentrer dans le détail. Alors que ce matin, les indices européens étaient en hausse et battaient pour certains de nouveaux records. L'ouverture à Wall Street n'a pas apporté d'élan supplémentaire hein, cet après-midi, même si Wall Street est en hausse. Après un long week-end de 3 jours, le Nasdaq gagne 1,2%, le S&P plus 0,6%, mais ça ne suffit pas pour nos marchés européens. Les fusions-acquisitions sont de retour. Ça apporte une dynamique nouvelle sur certaines valeurs. Alors EasyJet aujourd'hui gagne notamment 9%. Cette fois, EasyJet est prêt à accepter la dernière offre, une offre un peu meilleure de Castle Lake. EasyJet donc en hausse, en incitant Castle Lake à augmenter encore. Et puis, bien sûr, on parlera d'Exail et Thales, puisqu'Exail va rentrer dans le giron de Thales. Thales gagne 1,3% et Exail 2,5%. Demain, c'est SpaceX qui va intégrer le Nasdaq 100 pour la première fois, 25 jours après son IPO, donc un délai record hein, pour une introduction au sein du Nasdaq 100. Les règles, vous savez, ont été changées pour SpaceX. Le Nasdaq 100 qui est quand même suivi par des ETF, des produits d'investissement qui cumulent près de 1000 milliards de dollars d'actifs. Donc ça fera pas mal de flux financiers aussi à venir sur le titre SpaceX sans doute. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché et BFM Business au cœur de l'ensemble des actualités du moment. D'abord le budget, le comité d'alerte sur les finances publiques qui se tient demain. Le gouvernement ne va pas présenter de nouvelles mesures, mais il promet de fixer un cap sur la trajectoire des finances publiques. Dans la défense, ce ne sera pas Safran, mais donc Thales qui prendra le contrôle d'Exail. Le patron d'Exail, sachez-le, notez-le, sera demain l'invité de BFM Business. Ce sera à 8h35 qu'il répondra, le patron d'Exail, aux questions de Laure Clausier en direct. Et puis Casino et sa restructuration de dette d'1,4 milliard d'euros, long feuilleton. L'actionnaire majoritaire Daniel Kretinsky et ses créanciers ont formulé leurs offres et leurs positions restent très éloignées. Les négociations sont bloquées. Aux administrateurs maintenant de trancher ou proposer une alternative. Plus de détails aussi sur ce dossier, ce sera dans le 18, 19 et 10 Chevrillon. D'ici là, on est à vos côtés. BFM Bourse, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Les experts du club ce soir, Valentine Hénouz, donc en fil rouge à Amundi Institute. Rebonsoir Valentine.
Bonsoir.
Et Xavier Chapon, il nous rejoint, directeur de la gestion cotée de la dette privée d'Arkéa AM. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir l'un et l'autre. Comment vous les sentez ces marchés là, Xavier? L'Europe, mine de rien, le CAC 40 est pas très très loin de ses records. Hein. On est à un peu moins de 2% là, actuellement du plus haut historique pour le CAC 40. Le Stoxx 600 a battu il y a encore quelques heures un nouveau record. À Wall Street, c'est le Dow Jones. Enfin bref, c'est tout sauf le Nasdaq et le S&P là qui bat des records. La rotation, vous sentez que pour le deuxième semestre, elle est partie pour durer?
Alors la rotation, oui, la rotation à la fois sectorielle et géographique. Je pense que aujourd'hui sur l'Europe, on a des éléments, des facteurs favorables à une reprise des marchés de façon assez significative. C'est vrai qu'on est très très proche des points hauts de février et cela devrait normalement continuer. Et comme vous le citiez, vous avez des sociétés technologiques de défense qui sont aujourd'hui la proie. Bonne proie de belles sociétés comme Thales.
Ouais.
Et vous avez des IPO qui sont à venir également pour KNDS. Donc on voit bien qu'il y a des sociétés qui sont prêtes à apparaître sur le marché. Nous avons une vraie rotation sectorielle. Nous avons des BOC qui se comportent très très bien, qui sont en très bonne santé. Et un secteur de la défense qui reprend de bonnes couleurs par rapport à ce qu'on a pu connaître en ce début d'année.
D'accord, mais alors juste, vous changez vos paris pour ce deuxième semestre, comment est-ce que vous voyez les opportunités là sur les marchés? Alors, en termes géographiques d'abord peut-être, et puis ensuite on parlera secteur, on parlera aussi du marché obligataire bien sûr.
Alors en ce qui concerne la géographie, oui une préférence à l'Europe, ça c'est une première chose. Aussi une préférence à l'Asie, et toujours au Japon, à la Corée du Sud. Nous avons des marchés qui sont extrêmement favorables en Asie, qui ont très très bien marché en 2025, mais qui devraient continuer de très bien fonctionner sur 2026. Et on est vraiment positionné sur l'Asie, à la fois sur la partie obligataire et sur la partie action. Ça nous paraît vraiment, je dirais, le point à prendre cette année. Sur les États-Unis, on voit bien que les investissements sur dans le domaine de l'IA et les Mag 7 commencent à vraiment peser sur les valorisations des entreprises. Et on a une problématique de l'emploi, une inflation qui reste toujours présente. Et on voit bien que même si le PMI manufacturier reste dans un territoire positif, au-dessus de 53, on est néanmoins dans une zone de flou artistique, à la fois lié au mid-term, mais aussi à la situation américaine intérieure.
D'accord, donc plutôt l'Europe. Je comprends le PMI manufacturier, mais on a l'ISM des services aujourd'hui qui fléchit un peu, mais on reste au-dessus de 54 quand même pour cette ISM. Il y a les mid-term, c'est vrai, qui peuvent mettre un peu d'incertitude. Plutôt l'Europe. Valentine, comment vous regardez-vous le rapport de force entre Europe et États-Unis pour ce deuxième semestre et donc à travers cette question, en filigrane, la question de la rotation géographique, la rotation sectorielle, on parlera obligatoire dans un instant, mais est-ce que vous sentez que les moteurs vont changer d'aile? On va passer de l'aile gauche, en tout cas des États-Unis, vers plutôt l'Europe ou en tout cas les économies plus traditionnelles.
On est revenu, on partage la même avis, on est revenu sur les idées, les recommandations qu'on avait en ce début d'année, hein, où notre métage c'était regarder les niveaux de valorisation sur certains segments aux États-Unis de la tech sont extrêmement élevés, niveau de concentration élevé. Donc nous, on va privilégier, on reste positif sur les actifs risqués, mais on va privilégier tout ce qui est hors ce segment où les niveaux de valorisation sont beaucoup trop tendus. On va favoriser les émergents, on va favoriser l'Europe. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet environnement aujourd'hui est toujours positif pour les actifs risqués. Il y avait ce conflit au Moyen-Orient qui a quand même dominé les marchés sur ce premier semestre. Aujourd'hui, on a un prix du baril du Brent qui est revenu à 72 $. Donc, notre scénario, c'est quand même ce conflit est quand même aujourd'hui derrière nous. Devrait se dessiner aux États-Unis, en Europe, des pressions des inflationnistes. Et nous, on pense il y aura peut-être une hausse de taux de la BCE, mais néanmoins, on va revenir après sur des baisses de taux. Donc, il y a quand même un environnement aujourd'hui qui est favorable au risque, avec une croissance qui tient, un risque quand même qui est moindre sur l'inflation. Ce choc sur les prix de l'énergie, il est quand même derrière nous. Il faut quand même garder à l'esprit qu'en mars, on va avoir des effets de base très négatifs sur l'énergie. Donc, c'est un environnement qui est favorable au risque, mais quand même, attention au segment du marché où les niveaux de valorisation sont quand même très tendus et où on voit quand même toutes ces grandes entreprises de la tech sont en train de changer de modèle économique, même si les attentes sont extrêmement élevées en termes de profits pour les prochaines années. Et les modèles économiques ne sont plus les mêmes. Avant, on était sur des entreprises qui généraient du cash, qui avaient peu d'actifs, pas de besoin de financement. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui utilisent leur cash flow pour investir, des investissements massifs, qui commencent à accumuler des actifs et qui ont des besoins de financement qui sont monstrueux sur le marché actions et sur les marchés obligataires. Donc, on n'est absolument plus dans la même configuration.
Oui, et est-ce que la tech est en train de devenir peut-être aussi plus cyclique qu'avant, plus dépendante des taux monétaires, parce qu'elle a besoin de lever de l'argent? Alors, elle le fait aussi en levant des actions, on attend l'introduction en bourse d'Anthropic, mais aussi en levant de plus en plus de dettes. Vous vous attendez à une poursuite des annonces de levée obligataire de la part des acteurs de la tech?
Oui, ils vont devenir maintenant des acteurs structurels sur le marché obligataire. Alors, sur le marché US, mais aussi, ils émettent aussi en euros. Donc, on voit beaucoup d'émissions euros de ces acteurs américains. Et pour l'instant, le marché les absorbe relativement bien. Il n'y a pas de sujet. Pour moi, c'est quand même plutôt un sujet de valorisation sur le marché actions, où on voit que ces entreprises, elles n'ont plus du tout le même profil de risque qu'avant. Et je ne suis pas sûr que ça soit complètement pris en compte par le marché actions aujourd'hui.
Oui, vous pensez qu'il y a une menace même en termes de valorisation, de décrochage de certaines valeurs tech justement qui entraînent l'ensemble du marché, ou au contraire on verrait tout ce qui n'est pas tech, alors il y a de plus en plus de tech dans tout maintenant, mais bon, oui, ce qui n'est pas pure tech, au contraire tenir même si la tech baissait, est-ce que vous voyez ça se profiler en l'occurrence, Xavier?
Je pense qu'il faut faire une dissociation, ça c'est sûr, mais c'est vrai que les entreprises de la tech aujourd'hui ont fait d'énormes investissements. Ça commence à peser dans leurs résultats, ça pèse évidemment dans leurs besoins de cash flow. Et aujourd'hui, en termes de valorisation, oui, elles sont extrêmement élevées. Je pense qu'elles sont en train de rentrer en fait dans, je dirais, un système plus classique des bourses. Et donc, oui, les valorisations devraient rebaisser. Moi, je ne suis pas du tout favorable au fait d'aller remettre de l'argent sur ces valeurs. Il y a énormément de dettes émises, il y a énormément d'argent positionné pour avoir acheté un certain nombre de sociétés, beaucoup de cash engagé. Aujourd'hui, il va falloir trouver les dividendes de ces investissements et on n'y est pas du tout. Et on le voit bien avec SpaceX, avec son introduction en bourse. Oui, ça s'est très très bien passé, mais ça a perdu quand même 30%.
Depuis les plus hauts.
Les plus hauts.
Oui, on parlera dans un instant de l'intégration demain de SpaceX dans le Nasdaq 100. Mais plus globalement, quand on regarde les publications, là, parce qu'on va rentrer dans la saison de publication, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les grandes banques américaines commencent à publier la semaine prochaine, les anticipations sont très positives encore. Même sans la tech. Alors c'est vrai, grâce à la tech aussi, en moyenne, on attend aux États-Unis une hausse des bénéfices de 25% pour les entreprises du S&P 500. Et ici, en Europe aussi, on attend une accélération des hausses bénéficiaires par rapport au premier trimestre. Comment vous regardez ces anticipations? Est-ce qu'on est trop optimiste? Est-ce qu'au contraire, il va falloir les réviser à la hausse parce que les taux finiront peut-être par baisser aussi au fur et à mesure de la suite de l'année avec cette moindre inflation attendue?
Alors tout dépendra, c'est vrai, aussi des impacts de l'inflation qu'on a connue sur le premier semestre. Aujourd'hui, c'est vrai, le pétrole est redescendu à 72, c'est très bien. On revient sur les niveaux d'origine, mais on a quand même un effet retardateur de toute cette hausse de l'inflation qu'on a pu avoir pendant plusieurs mois. Donc ça va se retrouver quand même dans les entreprises. Donc il y a quand même ce point-là qui est à prendre en compte et qui a pesé sur beaucoup de petites et moyennes entreprises. Oui, les grosses sociétés n'ont eu véritablement de problème. Elles avaient du stock, elles ont pu aussi négocier à leur avantage un certain nombre de choses. Mais les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas été dans cette configuration-là. Donc c'est quand même là qu'il va falloir faire quand même attention et bien s'assurer que cette baisse de l'énergie va véritablement leur rapporter dans les prochains mois. Et on peut le voir, il y a beaucoup d'introductions en bourse de petites et moyennes entreprises qui ont vraiment besoin de cash, qui ont besoin de se positionner. On a le CIP français, bon voilà, c'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai que c'est important de le voir. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'arriver sur le marché pour capter du cash, pour continuer d'investir. Ils ont revu complètement leur modèle et avec un modèle beaucoup moins utilisateur de coûts, mais cela signifie aussi qu'ils ont besoin de se revisiter. Et se revisiter, c'est le cas du CIF français, c'est le cas de beaucoup d'entreprises françaises et européennes aujourd'hui. Et il faudra faire attention à ces valorisations-là. Pas pour les grands marchés, pas pour le CAC 40, mais très clairement pour les petites et moyennes entreprises, où là, il y a un véritable effet retardateur sur les coûts.
Vous partagez ça, Valentine, en l'occurrence, cette distinction entre grandes et petites?
Je la trouve extrêmement importante, et pour moi, la question bulle, pas bulle, la réponse, elle est franchement pas évidente. On débat beaucoup de ce sujet. Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'il y a des déséquilibres importants et que c'est pas juste un sujet action maintenant. Cette bulle action, elle est devenue un sujet macro, un sujet pour les investisseurs tôt. On le regarde tous. Et pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que la Fed, pour ça je trouve cette dynamique sur l'inflation, elle est clé. Est-ce que la Fed va être capable de baisser ses taux? Parce que les conditions de financement ne sont pas les mêmes pour l'ensemble de l'économie américaine ou plus largement l'ensemble de l'économie mondiale. Il y a quand même des conditions de financement ultra accommodante pour les grandes entreprises, beaucoup moins pour les petites entreprises. Et si on veut que cette histoire de l'IA, des gains de productivité à l'échelle de l'économie américaine, il faut qu'on ait un élargissement de ce cycle de CAPEX. Aujourd'hui, si on regarde les CAPEX, c'est vraiment l'histoire des hyperscalers, des utilities qui ont besoin de l'électricité. C'est vraiment l'histoire de certaines grandes entreprises. Après, on voit aussi aux États-Unis, c'est l'histoire de certaines industries qui relocalisent une partie de leur production à cause de la hausse des droits de douane. Mais ça, c'est quand même moins important. Mais si on veut vraiment voir une histoire positive sur l'IA, des gains de productivité, il faut que l'ensemble de l'économie américaine investisse. Et pour ça, il faut que les conditions de financement soient accommodantes pour toute l'économie américaine. Ce qui n'est pas franchement, je trouve, le cas vraiment aujourd'hui.
Pour l'Europe, qu'est-ce qu'on attend des publications là? Enfin, on se dit ça va justement apporter, parce que je sens plus d'inquiétude quand même sur les États-Unis. Vous craignez peut-être un peu plus des ruptures, même si l'IA apporte du potentiel, qu'en Europe où c'est un peu mou. Mais je sens que vous la sentez moins venir la rupture ici en Europe, Valentine.
Il y a moins de risques sur l'économie européenne. Alors, déjà, les attentes sont beaucoup moins élevées. Après, on a le soutien budgétaire de l'Allemagne. Voilà, on s'attend à une croissance, voilà, cette année qui tourne autour de 0,5-0,8. L'année prochaine, une croissance qui revient à 1. Bon, je ne pense pas qu'on puisse être franchement déçu par ces attentes. Et puis, on a toujours le soutien budgétaire allemand qui devrait être important et qui devrait permettre de maintenir une dynamique positive sur certains secteurs, les infrastructures, la défense. Donc, voilà. moins d'inquiétude pour l'Europe.
La défense, vous y croyez toujours, justement. On attend toujours, effectivement, ce grand cycle de dépenses allemand. Demain, d'ailleurs, les membres de l'OTAN se réunissent aussi en Turquie, les 32 pays membres, pour deux jours. C'est lors de ce genre de sommet, la dernière fois que les membres de l'OTAN s'étaient réunis, que une annonce avait été faite, celle d'effectivement accepter d'augmenter les dépenses consacrées à la défense à hauteur de 5% du PIB de chaque pays. Voilà, donc ces réunions-là sont importantes. Est-ce que vous pensez que le secteur de la défense a encore la hausse devant lui ou qu'elle est passée la phase haussière de ce secteur ?
En ce qui me concerne, je pense qu'il est très important de se dire que les besoins en termes de défense sont grandissants, que ce soit par les investissements des États dans le domaine, comme le besoin général que l'on peut avoir à travers toutes les technologies qui servent à la défense, mais qui ne sont pas que pour la défense. Donc oui, ce secteur pour moi est particulièrement important, est un secteur qui va continuer d'évoluer favorablement. On a de plus en plus de petites entreprises qui sont en train d'émerger, évidemment dans le domaine des drones, mais pas que. On parle d'Exel, bien sûr, mais il n'y a pas que Exel. Il y a énormément d'entreprises qui sont en train de sortir de la forêt. Et il y a vraiment de la valeur parce qu'il y a de la technologie. Il y a une disruption, en fait, dans le domaine de la défense qui est très, très fort depuis 2022. Et cela va évidemment amener des valorisations bien supérieures à celles que l'on peut connaître aujourd'hui.
Défense, donc, c'est un pari que vous prendriez à nouveau pour la suite, même si elles déçoivent un petit peu depuis le début de l'année.
Tout à fait.
Ok, en termes sectoriels, toujours, vous voyez quoi d'autre ?
Les banques.
Ah, les banques.
Les banques européennes. Aujourd'hui, elles sont dans une configuration où elles peuvent continuer de prêter. Il y a une hausse du crédit, à la fois du crédit aux entreprises et du crédit aux ménages. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Ça signifie que la transformation est favorable pour les banques européennes et il y a toujours un véritable potentiel en termes d'investissement de la part des ménages européens sur en termes de consommation, parce qu'il y a énormément d'argent de côté de la part des uns et des autres. Donc, en fait, pour les banques, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement favorable. Et donc, il va y avoir un besoin de consommation supérieure, des prêts à la fois dans la conso, à la fois pour l'immobilier, je l'espère. Ça va être peut-être compliqué parce que le marché reste quand même assez morose. Mais néanmoins, il y a un besoin de transformation sur l'immobilier, en particulier en France. Et surtout avec l'évolution en termes de climat qui vont demander de plus en plus
d'investissement
d'infrastructures.
Avec les canicules à répétition, Valentine.
Et surtout, si on regarde sur les banques, nous on partage cette recommandation, c'est si on regarde la courbe des taux, elle devrait pour nous se repentifier.
Bien sûr.
Parce que qu'est-ce qu'on a ? On va continuer d'avoir un soutien budgétaire important de la part des États, notamment pour le secteur de la défense, et c'est pas un soutien budgétaire de 6 mois, hein. C'est un soutien budgétaire pour les prochaines années. Donc ça, pour nous, on reste assez prudent sur les parties longues des courbes, parce qu'aujourd'hui, on a les investisseurs obligataires qui sont très très sensibles à ce risque budgétaire, hein. Et il faut absorber tous ces montants d'investissement. À l'échelle mondiale, il y a quand même des besoins de financement aujourd'hui qui sont monstrueux, hein. Donc être prudent sur les parties longues des cours parce qu'il y a quand même des potentiels de taux plus élevés. Et par contre, 2027, nous en 2027, on voit plus trop de risques sur l'inflation en zone euro et on voit la BCE à nouveau baisser ses taux. Et cette configuration, elle est extrêmement positive pour les financières.
Oui, la BCE qui baisserait ses taux l'an prochain, donc voilà, c'est le scénario.
C'est le scénario avec...
avec des effets de base sur le pétrole spectaculairement favorables.
Des effets de base et surtout pas d'effet de second tour de cette hausse des prix de l'énergie le risque de diffusion au reste de l'économie, le risque d'avoir une inflation qui soit de façon soutenable élevée, on le trouve assez faible, hein. On a quand même un marché de l'emploi aujourd'hui en zone euro qui reste assez fragile.
Bon, on poursuit nos échanges dans un instant. 17h20, on est à un quart d'heure de la clôture. On entre dans la dernière ligne droite de cette séance. Le CAC 40 recule aujourd'hui. -0,49%. ArcelorMittal et Pernod Ricard sont lanterne rouge. -2,8% ArcelorMittal. -2,5% Pernod Ricard. Et puis à la hausse, on a Stellantis là, qui récupère 1,7%. Airbus aussi en hausse d'1,8%. Un mot d'Exel et Thales, toutes deux progressent. Mais enfin, les actionnaires ne s'alignent pas sur l'offre de Thales. Hein. Thales propose 134 euros par action pour rachat d'Exel. Là, on n'est pas à 134 sur Exel. Même si le titre progresse, il n'est qu'à 120 125,50 €, une hausse de 2,5. Thalès aussi progresse d'1,4%, parce que beaucoup de synergies sont attendues de ce rapprochement avec Exail. On en parle ce soir avec Xavier Chapon et Valentine Hénouze. Sur les publications, on risque d'avoir un effet favorable en plus quand même aux États-Unis, c'est le fait que des entreprises pourraient imiter Nike, à savoir, vous savez, il y a eu le remboursement par l'administration Trump des droits de douane qui avaient été jugés illégaux, pas constitutionnels par la Cour suprême, donc des remboursements aux entreprises, et ben, on va faire passer ça dans les bénéfices. C'est à peu près ce qu'a fait Nike. Est-ce qu'on peut imaginer que beaucoup d'entreprises jouent à ça pour gonfler un peu les bénéfices aussi et que le marché sera dupe, Xavier ?
Non. Non, je pense pas qu'il
y aura entendu. Non ? Vous ne seriez pas dupe du truc.
Bah on partage le même point de vue.
Oui.
Non. Il regarde un peu plus long terme quand même.
Oui, d'accord. Tout ça passe à la moulinette sans aucun problème. Bon, du coup, le pétrole, $72. Est-ce que le marché, on est toujours sur les cours d'avant-guerre, hein, sur le pétrole, ça tient. Il n'y a pas de reprise des discussions attendues entre Washington et Téhéran avant jeudi, parce que là, l'Iran est en pleine phase de funérailles de l'Ali Khamenei, et donc les États-Unis ont annoncé une pause dans les discussions jusqu'à jeudi. Voilà, de l'Ayatollah, Ali Khamenei, c'est mieux comme ça. Est-ce que le pétrole, le fait qu'il reste sous ses cours de début de la guerre, est en train de nous envoyer un message, à savoir, on sort d'une phase on craignait une pénurie, on va entrer dans une nouvelle phase où on va anticiper une abondance, voire une surabondance de pétrole. Est-ce que c'est à ça qu'il faut s'attendre sur ce marché-là, Xavier ?
Alors, une surabondance déjà aux États-Unis. La production est très élevée. Les exportations également. On a le détroit d'Ormuz qui est en train de s'ouvrir un petit peu. Donc, nous avons de nouveau des flux. Maintenant, je pense que ce qu'il est important de regarder aujourd'hui, c'est la demande. Savoir si la demande ne s'est pas un petit peu corrigée sur ces derniers mois, c'est adapté à la situation élevée du pétrole et que donc on a aussi un effet retardateur du prix lié à cette demande qui est moins importante. Et puis en plus, il y a des stocks. Les stocks sont importants un peu partout, que ce soit des stocks stratégiques comme les stocks des entreprises. Et donc, on le disait il y a quelques mois, si on arrivait à revoir un prix du pétrole revenir sur les niveaux d'avant-guerre avant la fin juin, ça allait, en gros, ça avait un effet, évidemment, de court terme, important, très important, mais qui ne se retrouvait pas dans les besoins des entreprises. Donc, on est dans cette configuration.
Mmh. Valentine, là-dessus ?
Ah, moi, je suis très, très étonnée du peu de volatilité du prix du pétrole pendant ce conflit. On nous avait quand même annoncé 20% de la production de pétrole mondiale qui va être retirée du marché. Pour moi, dans cette configuration, voir des prix du pétrole partir à 150, voire au-dessus du dollar de baril, ne m'aurait pas étonnée, il faut quand même que j'avoue. Et j'ai quand même été très surprise de cette peu de volatilité hein, sur le prix du pétrole et à quelle vitesse le prix du pétrole est revenu. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un environnement où il y a une offre qui est abondante et il y a surtout une structure de la demande qui est en train d'évoluer. Et je pense qu'il faut vraiment surveiller du côté chinois. Il y a l'électrification de l'économie chinoise qui est aujourd'hui en train de s'accélérer. Et une des conséquences, parce que certains maintiennent un prix du pétrole un peu plus élevé hein, par rapport à ce que le marché a aujourd'hui valorise aujourd'hui en disant il y a toujours une prime de risque dans la zone, mais pour moi cette prime de risque dans la zone va plutôt se traduire par un pétrole qui peut être peut-être plus bas, parce que si la Chine veut ne plus vraiment dépendre de cette zone à risque du Moyen-Orient en accélérant son électrification, et ça c'est ce qu'on aura peut-être pour moi dans les trimestres à venir avec un prix du pétrole qui pourrait baisser hein.
Oui, et la Chine est restée relativement excédentaire en pétrole. Elle s'est même permise, en plein cœur du conflit, d'exporter une partie de son pétrole vers l'Australie, par exemple.
C'est ce qui a vraiment évité cette volatilité sur les prix du pétrole. Et là, je pense qu'une des volontés très fortes de la Chine, ça va être on veut dépendre de moins en moins de cette zone qui est à risque. On veut être plus indépendant. Et ça va être... Bon, c'est pas quelque chose de très court terme, mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être à prendre en compte par les investisseurs sur les prochaines années. On va vraiment être, pour moi, encore dans un environnement où l'offre de pétrole va rester assez abondante. Hein.
Oui. Donc, pas de risque inflationniste lié à ces matières premières-là, en tout cas.
Voilà. Ça va dans ce sens de cette idée que la BCE, l'année prochaine, va pouvoir baisser ses taux, que la Fed a un peu plus de marge de manœuvre malgré ses pressions inflationnistes à cause de ce cycle d'investissement. Voilà, il y aura plus de marge de manœuvre.
Est-ce que le signe noir sera japonais, pour le coup ? On n'a pas parlé du Japon, mais les taux japonais sont élevés. Le yen est au plus bas depuis 40 ans, lui, face au dollar, quand même. Et bon, voilà, ça arrive alors qu'on entre dans l'été. Et généralement, l'été, le Japon, ça ne se passe pas très bien sur les marchés financiers. Comment vous regardez ce mouvement ? Il va y avoir forcément un mouvement monétaire, Valentine ?
C'est un point extrêmement important. Et pour moi, il y a quand même un risque aujourd'hui sur sur les taux longs. Les investisseurs japonais, c'est des grands acheteurs de dettes, notamment de dettes françaises. Il faut quand même garder à l'esprit que la dette française, pour un quart, est détenue par des investisseurs étrangers non résidents de la zone euro. Et qu'aujourd'hui, pour ces investisseurs, les taux sur leur marché domestique deviennent beaucoup, beaucoup plus attractifs. Donc, ces investisseurs japonais aujourd'hui qui se positionnaient hors de leur marché domestique, ces mouvements, ça va prendre un peu de temps parce qu'ils ont des réunions annuelles pour leurs allocations, mais pour moi, il y a quand même des changements structurels qui vont sûrement se mettre en place et qui vont amener des pressions haussières sur les taux longs, notamment en zone euro.
Mais pour l'instant, ça se traduit. Est-ce que ça se traduit vraiment, ça?
Non, c'est long.
Le 10 ans français est à 3,6, le 10 ans allemand à 2,9.
Pour l'instant, ça reste très contenu. Pour moi, c'est plutôt. Ils mettent du temps avant de changer leur allocation d'actifs, mais c'est plutôt des mouvements de long terme, mais qui vont quand même. Ça reste un vrai risque. Hein.
Oui, Japon, vous regardez. C'est le signe noir, là, pour le coup possible, Japon.
Pour les taux, oui. Ouais. Pour les taux, oui. Après, en termes d'économie, je trouve que c'est une économie qui reste résiliente et qui est quand même dans la même configuration, un petit peu différente, mais de celle de la Corée du Sud. En revanche, il est clair, pour les taux, on a une politique de banque centrale qui est beaucoup plus restrictive, ils remontent les taux, on a des taux longs qui vont augmenter, donc cela veut dire de toute façon des investisseurs japonais qui petit à petit vont se poser la question de revenir sur leur marché domestique et de sortir des États-Unis ou de l'Europe. Le différentiel de taux aujourd'hui n'est pas encore suffisamment favorable, mais on connaît la capacité des investisseurs japonais à changer leur fusil d'épaule, soit de zone géographique, soit à revenir chez eux. Et le carry trade reste quelque chose de très, très à la mode encore.
Oui,
les Japonais.
Les négociations salariales annuelles au Japon, c'est quand même spectaculaire, on vous donne le chiffre, ont abouti à une hausse des salaires moyennes dépassant les 5% là, pour la troisième année consécutive. Ça met quand même en avant aussi la résilience de cette économie japonaise et ça va conforter la Banque du Japon dans sa volonté sans doute de continuer à relever les taux.
Et puis la devise, elle remonte pas. Il ne faut pas oublier qu'une partie de leur alimentation est importée. Une grande partie des produits consommés au Japon sont importés. Donc, cette faiblesse de la devise, c'est un vrai sujet pour les acteurs économiques japonais.
Ah oui, bon. Ça fera partie des éléments à suivre cet
vraiment,
été.
Vraiment, je suis vraiment d'accord avec ce point de vue.
C'est technique, mais c'est important.
C'est très, très important. Ouais.
Et puis SpaceX. Demain, SpaceX intègre. Alors, c'est moins important sans doute. Enfin, c'est important ou pas que SpaceX intègre le Nasdaq 100 demain, après 25 jours seulement. Depuis 25 jours, le titre est coté. Voilà, et ils intègrent déjà le Nasdaq 100, ce qui va du coup sans doute lui bénéficier. Hein. Il y a plein d'ETF qui vont devoir acheter ce titre SpaceX. Est-ce que c'est important, Xavier?
Important, non, en fait. Je ne trouve pas pour nous. En revanche, la période de publication fait que, oui, c'est un bon moment pour eux d'apparaître sur le Nasdaq, parce que justement, comme vous le disiez, les ETF vont investir de façon naturelle. Donc, les 30% qu'on a perdus, on va peut-être pouvoir les revoir dans l'autre sens. Mais est-ce que c'est important? Je dirais que c'est un épiphénomène. Voilà.
SpaceX, c'est un épiphénomène? Oui, ouais, d'accord. D'accord.
Valentine, je pousse le trait.
Je suis une fille, je regarde les taux, moi. Mais je regarde vraiment SpaceX. Pour moi, c'est vraiment un indicateur sur ce côté un peu d'exubérance du cycle, de cette confiance des investisseurs dans ce cycle de l'IA. Pour moi, je regarde ça comme un indicateur de confiance. SpaceX, je trouve qu'il est très, très bon.
D'après Odo BHF, les fonds indiciels, donc les ETF, pourraient absorber 80% des actions qui seront remises sur le marché, des actions SpaceX qui seront remises sur le marché au prochain lock-up. Vous savez, il y a des fenêtres de vente pour les investisseurs historiques, les actionnaires historiques qui vont arriver. Mais 80% de ces actions qui seront rendues seront absorbées par les achats des ETF Nasdaq. Voilà. Et puis pour l'intégration dans le S&P 500, il faudra rester patient, hein, c'est dans un an. Le S&P n'a pas craqué là-dessus. Ils n'ont pas changé, le S&P, leurs règles pour accélérer l'introduction de SpaceX dans l'indice, contrairement au Nasdaq 100.
Je parie, ils n'ont pas dû avoir de coup de téléphone de Trump.
Ah, vous croyez? Ouais. Remarque, Donald Trump, il appelle le patron de la FIFA pour demander le retrait d'un carton rouge, et il y a retrait de carton rouge pendant le mondial.
Oui.
Tout ça continue, hein. La parole américaine, elle est vraiment abîmée en ce moment. Le dollar a bien remonté quand même depuis le début de l'année. C'est pour ça que je me dis, c'est bien sûr, on peut se dire la crédibilité est écorché, mais en réalité, sur le marché, est-ce que ça se voit tant que ça, Valentine?
Bah, si on regarde Kevin Warsh, il a réussi son pari, hein, il a renforcé la crédibilité de la Fed. Le premier discours à son entrée en fonction a été plutôt réussi. Donc non, dans ce sens-là, la crédibilité américaine n'a pas été entachée, quoi. Elle était à risque, mais il y a quand même des institutions qui restent solides.
On parlait justement des États-Unis tout à l'heure avec Eric Lafrenière dans USA Today. Il nous parlait de Tesla en hausse de 5% aujourd'hui. Tesla fait parler, lui, avec l'annonce du déploiement officiel, ça y est, à Miami, de ses robotaxis. Donc quand vous irez à Miami, vous verrez les robotaxis Tesla. Et puis Boeing aussi à suivre aujourd'hui. Tesla gagne 5%, mais Boeing gagne 3%. Boeing qui prévoit d'ouvrir aujourd'hui sa quatrième ligne de montage pour le 737 Max. Voilà, 737 Max quand même se vend de plus en plus. Et donc là, on a une étape importante pour accélérer les cadences de production. USA Today disponible en replay. Tout de suite, on entre dans la data room. Pour prendre date avec le réel, la data room chaque soir avant la clôture. Valentine, Xavier, êtes-vous prêts?
On est prêts,
bien sûr.
Valentine, votre data, on va démarrer avec vous, votre chiffre, 55%, je l'ai moyenné.
55%. D'accord, ok. Ouais. De ventes de voitures neuves en Chine sont désormais électriques. On parlait de l'électrification en Chine.
55% des ventes de voitures neuves sont électriques, des véhicules électriques.
Exactement. Et un chiffre qui a basculé dans la majorité, bon, ça c'est en moyenne sur les derniers mois. Si on regarde au mois d'avril, on est à 60% de voitures neuves qui sont électrifiées. Maintenant, ce n'est plus une niche, c'est un choix des consommateurs chinois. Donc c'est une domination mondiale sans précédent. Il y a 60% de tous les véhicules électriques vendus dans le monde aujourd'hui qui viennent de Chine. Les constructeurs locaux en Chine, eh bien, ils écrasent la concurrence. On avait Tesla avant, qui était un acteur important en Chine. Eh bien, maintenant, 80% des ventes de véhicules électrifiés en Chine reviennent à des marques chinoises. Et Tesla n'a plus que 3% des parts de marché. Il y a une explosion des exportations. Donc, les exportations de véhicules électriques en provenance de Chine ont très, très fortement augmenté. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. L'Europe est la destination numéro un, ce qui redessine complètement la géopolitique de l'économie mondiale. Donc, aujourd'hui, eh bien, disons que l'électrification est un sujet majeur en Chine.
Effectivement, et vous l'avez expliqué aussi avec les impacts sur le pétrole. Valentine, vous vous êtes montrée généreuse en data. À vous, Xavier, votre chiffre ce soir, 25 milliards de dollars.
Oui, 25 milliards de dollars, c'est l'émission justement de SpaceX de dette obligataire.
Ah oui.
Sur 5, 7, 10, 20 et 30 ans. 85 milliards de demandes, donc en fait un 3,4 d'appel du marché. Une émission donc, qui s'est très très bien passée. Et qui fait face aussi, justement, juste après coup, à son introduction. Il y avait des coûts d'introduction. Ça leur a permis, en fait, de pouvoir emprunter à bon prix. Ce qui est important aussi de noter, ce sont ce qu'on appelle les CDS, les crédits défaut de swap, qui, c'est-à-dire, en fait, c'est une protection pour les investisseurs sur le crédit de l'entreprise qui au moment de la sortie de l'émission ont été à peu près autour de 101 points et qui aujourd'hui se sont écartés. Donc ça signifie néanmoins que on est dans une configuration où les investisseurs sur SpaceX se posent beaucoup de questions et sont plutôt comparativement à d'autres sociétés comme Intel ont une prime de risque plus importante.
Xavier Chapon, Arkea AM, merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagnés. Valentine Hennous pour Amundi Institute, nos deux experts du club ce soir. Dans un instant, la clôture des marchés, la première de la semaine avec Antoine. À tout de suite dans 2 minutes sur BFM Business.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Et notre CAC 40 ce soir clôture donc en petit repli de 0,3%. Voilà, on avait un CAC ce matin en hausse qui était à peine 1% de ses records. Là, on termine finalement en légère baisse. ArcelorMittal termine lanterne rouge à moins 2,8. On retrouvera dans un instant Romain Dobry qui va nous faire bien sûr le débrief technique aussi de cette première clôture de la semaine. Et le détail, bien sûr, valeur par valeur, les tops et les flops. Alors que, bien sûr, on attend les publications des entreprises qui vont démarrer la semaine prochaine aux États-Unis avec le secteur bancaire. Les tops et les flops de ce soir. Avec, il vient de nous retrouver Antoine Larry-Gaudry, donc pour, c'est vrai, cette clôture un petit peu, molle, c'est votre mot du jour d'ailleurs, mou, c'est jour mou sur les marchés.
Ouais, c'est un petit peu décevant parce que globalement on avait tout pour signer une belle hausse. Au matin, on était à une centaine de points de notre dernier record historique. Ouais. Là, on termine à 8479 points, un repli de 0,33%. Notez que la tech s'est un petit peu mieux comportée à plus 0,05% pour l'Euronext Tech Leaders, mais vous voyez l'Euronext, l'Eurostox 50, lui recule de 0,23%. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu des prises de bénéfices immédiates sur tout ce qui a signé une belle fin de semaine passée, ArcelorMittal notamment, qui sortait de deux séances de forte hausse là pour le coup. Là, le titre perd 2,8% à 56,96€. On a nos fameuses valeurs ennuyeuses qui avaient signé la belle fin de semaine passée, mais qui sont toutes en baisse. Eiffage, moins 2,16€, 126,80€, Vinci, moins 2,07€, 125,25€. Engie, moins 9, 27,21€. À la hausse, en revanche, alors on est resté sur les dossiers de récupération. La gestion value, on a pris du Stellantis, plus 1,97 à 5,03. Il faut dire qu'on revenait des profondeurs. Puis le secteur de la défense, en pleine ébullition, on va en reparler. Airbus, plus 1,58, 209,40. Et Thales, plus 1,22, 241,10€.
Romain, avec nous pour cette première clôture de la semaine. D'un point de vue graphique, quel signal pour la suite ce soir, Romain ?
C'est pas méchant, mais c'est pas un très bon signal, évidemment. On était en hausse sur l'indice parisien, en clôture en le rouge. La bougie du jour englobe la bougie du jour précédent. C'est un avalement baissier. Il faut dire qu'on a quand même réussi à aller combler enfin le gap baissier qu'on avait laissé ouvert le 2 mars dernier à Paris, au moment de l'annonce du conflit dans le détroit d'Hormuz. Donc c'est pas mal qu'on l'ait comblé. C'est pas terrible qu'on se soit réinstallé en dessous pour l'instant. Donc le plafond de verre, c'est 8562 à déborder pour repartir franchement à la hausse, le plus haut du jour. Le premier niveau d'alerte intraday, c'est 8474. Le retournement, c'est 8335. On en est relativement loin pour l'instant. Il y a quand même du stock picking, on le voit. Des choses qui se mettent en place, des titres comme Capgemini qui se sont un peu mieux comportés que les autres, finalement, en fin de séance, qui ont préservé un peu de gains. Et puis, le secteur de la défense, effectivement, vous le disiez, la semaine dernière, sur des ETF européens de la défense, ils ont quand même pris 10%. Donc, il y a quelque chose qui se met en place de ce côté-là, manifestement.
Et on va en parler de ce secteur de la défense avec nos experts. C'est Eric Lewin, tiens, qui va nous retrouver tout de suite. Merci beaucoup Romain. Juste un petit mot Romain quand même aussi sur les indices américains. Ce sera pas une très grosse semaine aux États-Unis. On aura juste à suivre les minutes de la Fed, quelques rares publications. Le vrai coup d'envoi ce sera la semaine prochaine. Mais bon, graphiquement, à l'assaut de l'été là, comment est-ce que vous sentez le potentiel US pour la suite ?
Alors, on a le même type de comportement à Wall Street qu'on a eu en Europe pour les jours précédents. C'est-à-dire que les opérateurs sont en retrait. On a progressé de 1,75% la semaine dernière sur le S&P. La position ouverte, le nombre de contrats futurs a baissé dans la même proportion, 1,75%. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'initiative. Donc, on en est dans une situation d'attente avant la saison des publications, plutôt solide. Il n'y a pas de mouvement baissier pour l'instant. On peut regretter d'être un petit peu optimiste dans ce contexte-là. Donc, on peut s'attendre, à mon sens, à cette semaine, à un peu de volatilité et à des contre-pieds dans un marché qui va être assez creux en attendant les publications qui débuteront avec le secteur bancaire à partir de mardi prochain, dans 8 jours. Donc pour l'indice S&P, les niveaux à surveiller, c'est 7233 en bas. Le niveau de réactivation haussier franc, c'est 7580. Et le pivot dans cette zone de prix, c'est 7455 points. On est pour l'instant bien au-dessus.
Romain avec nous et tout de suite donc le show Eric Lewin. Alors il est au téléphone avec nous cette semaine Eric, mais on a quand même plaisir à le retrouver. Il va nous accompagner là pour les 10-12 prochaines minutes. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Eric Lewin pour Bourse Direct également. Rebonsoir. Bonsoir Eric, ravi de vous retrouver.
Bonsoir à tous.
D'abord l'ambiance globale, on va rentrer dans le détail des valeurs dans un instant, mais l'ambiance globale là en ce 7 juillet sur les marchés, on n'est pas encore dans la phase de publication des entreprises, ça va finir par arriver, mais on est dans une espèce d'entre-deux. Comment vous sentez l'état des marchés là Eric ?
Bon écoutez, il faut vraiment attendre les publications. Je vous rappelle qu'on attend notamment plus 20% sur les BPA, bénéfices par action, du deuxième trimestre aux États-Unis. Il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, si c'est le secteur de la défense dont on va parler. Donc ce que j'ai envie de vous dire moi, c'est que bon, ça peut continuer tranquillement à consolider sans que ce soit très important. À noter demain quand même, il faut en parler, il y aura des publications des trimestriels de Samsung, le groupe sud-coréen qui gagne 165% en bourse depuis le début de l'année. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il pourrait annoncer une multiplication par 18 du résultat d'exploitation au titre du premier trimestre. On suivra ça dans la nuit, on attend un chiffre d'affaires en hausse de 127%, donc les attentes sont déjà tellement élevées qu'à la moindre petite déception, ça pourrait être compliqué, mais à part ça, franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si c'était bien évidemment, j'ai oublié d'en parler, SK Hynix, je ne sais pas si vous en avez parlé, le numéro 2 du secteur coréen, qui vient à Wall Street en fin fin de semaine. Donc, c'est les deux événements que je vais regarder cette semaine.
Exactement. On connaîtra a priori jeudi le prix d'introduction sur le marché américain de SK Hynix qui sera coté à Wall Street sous forme d'ADR. Antoine.
Ça va être amusant. On parlait de SpaceX comme l'éléphant balancé dans la piscine. Là, ça va être un diable de Tasmanie balancé dans les pattes des traders. Parce que c'est une extrême volatilité. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que les fabricants de mémoire vive ont connu un cycle très très haussier au début des années 2000, que tout s'était écroulé. Donc il risque d'y avoir un track record assez négatif, et en tout cas de l'anticipation de volatilité, ça c'est sûr. Et encore plus de concentration sur cet indice Nasdaq 100, très orienté semi-conducteur, avec tout ce qui est Nvidia, tout ce qui est Micron, etc.
Ouais. Le CAC 40, parce que c'est vrai que c'est une phase de marché assez faible, Eric, en ce moment, mais le CAC 40 était quand même ce matin à peine 1% de son plus haut historique. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, là, cette semaine, de célébrer un plus haut.
Ouais, mais à condition que ça soit bien du côté de Samsung. Je vais vous dire très honnêtement, qu'on fasse plus haut maintenant ou plus haut après, c'est pas très important. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est quels pourraient être les catalyseurs à la hausse. Je suis pas sûr que les résultats des entreprises en Europe soient vraiment le catalyseur. Moi, comme je vous l'ai dit, on en parlait la semaine dernière dans le club, je pense que ça va être les fusions-acquisitions qui vont animer la tendance au cours du second semestre. Et il faudra faire vraiment du stock picking. C'est le mot-clé pour moi dans les 6 mois qui viennent.
Alors, on y va dans les fusions-acquisitions parce que ça commence à sérieusement s'agiter. Safran, donc, out, c'est finalement Thales qui va reprendre Exail en proposant 134 euros par action. Ce soir, Exail a progressé, mais sous les 134, hein, sous l'offre de Thales, les actionnaires achètent à moitié, plus 2% Exail à seulement 125,10 euros. Comment vous interprétez ce signal-là, le fait qu'on n'atteigne pas l'offre à 134 de Thales?
Bah, écoutez, d'abord, ce qu'il faut lire quand vous lisez tous les communiqués, l'OPA aura lieu au plus tard début 2028. Donc ça veut dire que, certes, la famille Gorgé va vendre sa participation à Thales, donc ça c'est 134 euros, mais le temps que l'opération se mette en place, on peut mettre encore un an et demi. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que le titre est autour de 125-126 euros. Ça ne veut pas dire du tout que les investisseurs ne croient pas à cette opération, mais c'est souvent le cas de figure quand il y a une OPA qui va être lancée dans 18 mois, parce qu'on a le sentiment que c'est pas parce qu'ils rachètent les gorgées qu'ils vont lancer l'OPA demain. Sinon, sur l'opération en tant que telle, bah écoutez, il y a un retournement de tendance fantastique. Hein. Je regardais le cours d'Exail Technologies, il y a 15 jours, on était à 90,50 euros, tout simplement, parce qu'il y a eu un désaccord avec le principal créancier du groupe, qui s'appelle ICG, sur un problème de valorisation. Ce qu'on peut dire sur cette opération, mon cher Guillaume, c'est que Thales acquiert un actif pas bon marché quand même, parce que c'est une VS sur EBIT de 24 sur 2027, mais eux disent, des gens de chez Thales, que l'effet sera relutif dès la première année. Il faut bien comprendre quand même que le marché mondial de la lutte sous-marine robotisée est un marché exponentiel. La taille pourrait être multipliée par 8 d'ici 2030 à 700 milliards d'euros. Et franchement, quand vous voyez Exail Technologies, c'est quand même une pépite, puisqu'en 2019, depuis 2019, le carnet de commandes a été multiplié par 10 à plus d'un milliard d'euros. L'opération est logique et ça m'amène à dire que dans ce secteur de la défense, ça pourrait continuer dans les opérations financières.
Oui, et c'est intéressant, c'est qu'il y a une opération miroir de l'autre côté des États-Unis qui est à peu près équivalente, Antoine. Là, Thales rachète Exail, spécialiste des drones sous-marins. Aux États-Unis, vous avez repéré un peu la même chose.
Mais en plus, avec un montant similaire, on est à 3,5 milliards de dollars. C'est Lockheed Martin qui rachète Ultramaritime, qui est un groupe spécialisé dans les technologies de défense maritime, comme son nom l'indique. Et c'est un petit peu le même mouvement qu'on peut observer de temps en temps cyclique autour du secteur de la santé, avec la Big Pharma qui s'intéresse à des biotech qui ont des produits intégrés, qui sont vraiment spécialisés sur un certain nombre de secteurs. Là, voilà, ils veulent des technologies éprouvées, quitte à payer cher. Et c'est un mouvement intéressant, c'est un phénomène de concentration qui est intéressant, parce que pour les entreprises de plus petite taille, voilà, il va y avoir des grands groupes de défense diversifiés qui vont vouloir avoir un accès direct à un certain nombre de technologies, vite fait, quitte à payer un petit peu cher. Et ça pourrait être le chaînon manquant au dynamisme du secteur de la défense qu'on déplore un petit peu en ce moment.
C'est ça, exactement. Et vous disiez en préambule tout à l'heure, Eric, que vous croyez au rebond du secteur de la défense pour la suite ou pas?
Mais évidemment, en fait, si vous voulez, on a eu 3 années exceptionnelles, donc une croissance de l'ordre de 200%, mais les carnets de commandes débordent. Moi, je regardais Rheinmetall, ils ont 8 années de carnet de commandes. Donc, ok, ça a un peu baissé cette année, même pas mal, parce que il y a eu l'Allemagne qui a refusé sur le fameux contrat de frégate. Mais enfin, attendez, c'est quand même pas catastrophique. Et puis, il y a le sommet de la haie, je vous rappelle, je crois qu'il y a un sommet de l'OTAN qui va démarrer. En juin 2025, les 32 alliés de l'OTAN avaient dit qu'ils voulaient atteindre 5% du PIB dans la défense en 2035 en termes de défense. Donc, il y a, pour moi, il y a une tendance de fond qui veut dire qu'on a besoin de plus en plus d'industries de défense. Alors c'est sûr que depuis le début de l'année, quand on regarde les perfs, à part Safran qui fait plus 20, mais Safran c'est pas complètement de la défense, Thales fait plus 5,5, Dassault Aviation fait plus 13%, mais moi je pense qu'après cette vague de petites consolidations, ça reste vraiment un secteur à avoir en portefeuille, notamment en France. Pour une fois, on a quand même quelques petites pépites françaises, on avait Exel Technologies, il y en a d'autres.
Ouais. Et alors au-delà de ce secteur de la défense, on voit aussi dans l'aéronautique, dans l'aérien pour être plus précis, un autre mouvement de concentration. EasyJet gagne 9% ce soir parce qu'EasyJet donne son accord de principe à une OPA améliorée de Castle Lake qui valoriserait EasyJet 6,4 milliards d'euros. Hein, c'est pas en euros, mais voilà, traduit et converti en euros, ça donne ça, 6,4. Plus 9% ce soir EasyJet. Est-ce que ça va continuer de monter, Eric?
Bah écoutez, non, alors là, je crois que c'est la cinquième offre de rachat de Castle Lake qui est un fonds. La valeur maintenant, on est 5,2 milliards de livres. C'est la cinquième proposition. A priori, cette dernière offre est acceptée par Stelios Agioniou, qui est le fondateur d'EasyJet, qui a 15,3% du capital. Le groupe n'était pas quand même dans une forme éblouissante, puisque sur le premier semestre, ils avaient perdu 436 millions d'euros. Mais ce qu'il faut dire quand même sur EasyJet, ce qui est intéressant, c'est la valeur comptable de la flotte de 361 avions, dont la moitié en propre, s'élève à 5 milliards de livres, et donc c'est la capitalisation actuelle. Ce qu'on peut dire, c'est que EasyJet est un groupe qui souffre, qui réussit bien depuis 3 mois avec la spéculation de plus 72%, mais sur 10 ans, c'est pas Byzance, avec moins 43%. On a le sentiment quand même que cette offre pourrait marcher. Maintenant, après, que va faire Castle Lake? Est-ce qu'il n'y aura pas une vente par appartement? On sait que c'est un fonds qui a l'habitude de vendre, de racheter. Je crois qu'ils étaient dans SAS avec Air France à un moment, dont ils sont sortis. Donc attendons de voir, mais j'ai le sentiment que cette dernière offre est la bonne. Juste un mot, mon cher Guillaume, pour revenir un tout petit peu sur la défense. Je pense qu'on peut jouer encore la défense à Paris avec Exosens, qui certes vaut 30 fois les bénéfices, mais à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir une opération, parce qu'on a toujours HLD qui a 18% du capital et qui pourrait être amené à vendre. HLD, je vous rappelle que c'est un fonds. Et puis il y a Parrot, on peut jouer Parrot pour jouer le secteur de la défense. Pourquoi? Alors Parrot, plus 45% depuis le début de l'année, parce qu'ils ont une activité micro-drone, hein. C'est pas des gros drones, mais c'est des micro-drones qui représentent 76% du chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis 6 mois? L'armée finlandaise qui a acheté des micro-drones, et puis l'agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN. Donc vous voyez, il y a deux petites pépites encore, alors c'est pas comme Exel Technologies, mais ces deux valeurs me paraissent quand même très intéressantes encore au cours actuel.
Tout à l'heure dans Valeurs Ajoutées, nos experts du jour Métis Gestion sont eux, nous indiquaient être eux à l'achat sur Lumibird, un fabricant de lasers, alors pas pour les lasers intergalactiques, non, des lasers du quotidien, très utiles. Ils nous ont expliqué le métier de Lumibird et son potentiel. C'était dans Valeurs Ajoutées, séquence à retrouver en replay sur l'application BFM Business. On revient bien sur Terre là avec Vinci, les grosses infrastructures. Vinci remporte 3 contrats de long terme. Bon, comment vous regardez cette valeur, Vinci? On est vraiment dans le dur, là, c'est le cas de le dire. On en parle rarement. Est-ce que c'est une valeur que vous appréciez dans votre scope, Eric?
Bah écoutez, oui, alors ce qu'on peut dire sur les contrats, bon, ça reste, il y a 3 contrats via la filiale de Vinci Construction en Grande-Bretagne qui s'appelle FM Conway. C'est quand même des contrats tout petits puisque c'est 68 millions d'euros pour les 3 contrats. Oui, écoutez, pour moi Vinci, c'est quand même la valeur défensive par excellence. Alors, c'est sûr que le dernier chiffre était pas extraordinaire dans la publique parce qu'il y avait un trafic qui reculait dans les aéroports et les autoroutes, mais enfin, c'est un dossier tranquille, ça gagne 6,5% depuis le début d'année, ça vaut 13 fois les bénéfices. Faut pas mettre 10% de son portefeuille sur Vinci, mais on n'est jamais vraiment déçu sur cette entreprise. Il n'y a jamais non plus un bêta énorme, c'est-à-dire elle fait jamais des performances. Mais si vous aviez acheté du Vinci il y a 5 ans, vous auriez eu 40% sur 5 ans, en annualisé, ça fait 8 à 10%. Donc c'est mieux que du monétaire, c'est mieux que certaines obligations. C'est un dossier qu'il faut avoir en portefeuille. Voilà, qui ne déçoit strictement jamais, mais qui n'est pas parmi les plus sexy de la côte parisienne.
D'accord. Les plus sexy des dossiers en Europe, c'est quoi pour vous aujourd'hui?
Bon, écoutez, si on veut jouer des trucs sexy, faut jouer du Stellantis ou des valeurs. Non, faut jouer de l'automobile dont personne ne croit. Si vous voulez vraiment faire de l'argent, il faut essayer de jouer des valeurs dont personne ne croit, du luxe avec un Hermès à 1650, du Stellantis autour de 5 euros. Ma petite pépite, j'allais en parler, mais je vais devancer sur Rémy Cointreau.
Non, oui. N'allez pas dans le détail de Rémy Cointreau. Oui.
Non, mais si vous voulez faire des effets de levier intéressants, il faut faire des valeurs dont personne ne veut.
D'accord.
Vinci, tout le monde connaît. Dire aujourd'hui j'achète du Stellantis, ça paraît complètement fou dans la situation actuelle, parce que plus personne ne veut l'automobile. Dire je veux acheter du Renault, c'est la même chose. Donc si vous voulez vraiment avoir un effet de levier, un risk reward, comme on dit dans les milieux anglo-saxons intéressants, bah, il faut acheter du Stellantis. Je vous rappelle que Stellantis, ça vaut 5 euros, ça fait 47% depuis le début d'année, 69% en 3 ans. Donc s'il y a un retournement à faire, c'est sur ce genre de dossier.
Ouais, bah, pourquoi pas. Et votre pépite, c'est Rémy Cointreau, alors?
Bah écoutez, oui, Rémy Cointreau, pourquoi? Parce que Rémy Cointreau, moins 70% en 3 ans, ils sont, vous savez, numéro 2 mondial du cognac. Bon, on sait que depuis 3 ans, c'est compliqué, on a une marge opérationnelle courante qui est passée de 28 à 18 en 3 ans. Le groupe regagne quand même des parts de marché aux États-Unis et en Chine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez un stock qui représente 1,8 milliard, hein, le stock de cognac, notamment les cognacs Rémy Martin et Louis XIII, qui sont vraiment le premium. 1,8 milliard, c'est quasiment la capitalisation actuelle du groupe. Ça vient de reprendre quand même 5% en l'espace d'un mois et 15% en l'espace de 3 mois. Et puis, c'est pas cher. Moyenne historique, on était à 34. Là, on est sur un PER de 20. Donc là, vous voyez, c'est typiquement la valeur. Si jamais, du côté de la Chine, ça va un petit peu mieux en termes de consommation, s'il y a des mesures de relance budgétaire, et si aux États-Unis ça va également un tout petit peu mieux, l'effet de levier, là également, est extrêmement important. Et autour de 43-45 euros, on peut vraiment faire un soleil, gagner 30 à 40%. Donc si on veut des valeurs sur lesquelles il y a un effet de levier important, je place Rémy Cointreau, qui reste quand même un dossier solide. Ça reste quand même 17% de rentabilité opérationnelle courante. On n'est pas des groupes en perte, c'est des groupes quand même extrêmement bien gérés.
D'accord. On attend beaucoup des publications des entreprises. Vous êtes plutôt sur les small et mid-cap en l'occurrence. Eric, on va bientôt rentrer dans cette phase de publication, toujours au cœur de l'été. C'est un peu ingrat pour beaucoup d'investisseurs ou d'actionnaires qui doivent rester mobilisés fin juillet, début août. Mais voilà, sur les small et mid, vous êtes plutôt de plus en plus optimiste. Vous vous dites attention quand même, parce qu'on est à moins d'un an maintenant d'une présidentielle, et généralement ce genre de période n'est pas favorable aux small et mid.
Alors, la période n'est pas très favorable au small et mid avant une présidentielle, sauf que l'indice fait pas grand-chose depuis le début de l'année, on gagne entre 2 et 4%, et que dans le monde des small et mid, la chance qu'on peut avoir, c'est que vous avez beaucoup de patrons de boîtes qui sont en bourse depuis 15 ou 20 ans, et donc là encore, comme on a vu avec Excel Technologies, il va y avoir des opérations financières. Donc moi, je fais jamais de prévision sur les small et mid, parce que c'est compliqué de dire l'indice va gagner 10 ou 15%, parce que vous savez que ce n'est pas un indice équipondéré, par exemple, dans le monde des dans le small et mid, c'est OVH la plus grosse capitalisation. Donc si OVH gagne 100% dans l'année, on peut avoir un CAC small et mid qui gagne 10%, mais ça ne veut pas dire que tout le monde achète des small et mid. Moi, je suis plutôt dans une logique de concentration. Je pense que s'il y a deux secteurs à retenir, c'est les équipementiers automobiles, où il devrait se passer quelque chose parce que le secteur a des difficultés, et le secteur informatique qui a été survendu. Je pense notamment à une valeur comme Neurone, qui doit valoir en termes de valeur d'entreprise rapportée aux résultats opérationnels courants 5 fois, tout simplement parce que comme on a eu la SaaS apocalypse pour les éditeurs de logiciels, on a eu l'ESN apocalypse, comme si plus personne n'allait travailler avec des ESN, alors que je ne cesse de le dire, pour moi, c'est un accélérateur de croissance l'IA, c'est-à-dire que les ESN qui mettent de l'IA, eh bien, ça accompagne leur croissance et même ça les développe, et je ne crois pas du tout, quand ce sont des gros ESN, à une cannibalisation.
Eric Lewin, merci beaucoup. Stratégie de Saxon pour Bourse Direct. Bonne fin de journée, Eric. Le CAC ce soir perd 0,3%. Wall Street en hausse, hein, le Nasdaq gagne 1,3% notamment. Dans un instant, vous retrouverez Stéphanie Collot et Bichevrillon, bien sûr, pour le 18-19. Le débrief de la séance aussi avec Antoine. Et nous, on se donne rendez-vous demain, 15h30, pour un nouvel épisode de BFM Bourse. Demain matin, Good Morning Markets également. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.